La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, en Jésus, notre frère, celui qui vient et qui porte en lui et qui l'accomplit le royaume. Bienvenue à vous toutes et tous qui nous rejoignez ici, dans l'oratoire du Louvre, mais aussi par le biais des réseaux sociaux. Nous sommes ensemble dans la communion fraternelle ce matin. Bienvenue à notre invitée de ce matin, Madame le rabbin Pauline Beb, qui fait partie de la communauté juive libérale à Paris, et de la, alors il y a un nom du centre particulier.
Le centre Mayan, qui veut dire la source.
Voilà, le centre Mayan. Et nous avons donc l'honneur d'accueillir aujourd'hui Pauline pour qu'elle puisse nous partager la parole avec sa lecture comme rabbin. Et nous sommes du coup en communion les uns avec les autres, avec la communauté de Pauline. Peut-être y a-t-il ici des personnes qui l'ont accompagnée, qu'elle soit vraiment bienvenue dans ce lieu. Ici, on peut y venir comme on est, avec sa foi, et on ne demande, je dis toujours, on demande pas la carte du parti. Si vous voulez, il y a un côté comme ça où on peut venir écouter un discours sans forcément adhérer à tout ce qui sera dit. Ce qui compte ici, c'est la fraternité, c'est l'amitié, c'est l'accueil. Et nous le faisons au nom du Christ qui nous a montré la voie pour être accueillants de cette façon. Et nous le faisons aussi dans toutes les activités que nous pouvons faire pour faire progresser une idée libérale de la théologie, pour que la liberté soit un maître mot dans notre action cultuelle et religieuse. Pauline, je te laisse la parole, parce que c'est peut-être un peu compliqué d'arriver dans une communauté qu'on ne connaît pas encore, pour entamer ce temps de culte, et puis comme tu vas nous partager la parole, je te laisse la parole.
Merci beaucoup, merci pour ces mots de présentation. Je suis ravie, heureuse, émue d'être avec vous aujourd'hui, de partager ce temps de spiritualité et dans un lieu magnifique qui est chargé d'histoire et de belles histoires, parce que ce sont des histoires d'accueil de l'étranger et de salut, de vie. Et comme moi aussi je viens d'une famille de juifs qui ont été cachés pendant la guerre et qui ont survécu grâce à l'intervention de chrétiens qui les ont sauvés, je suis toujours reconnaissante à la fois d'être en vie et de pouvoir intervenir dans des lieux chrétiens aussi.
Merci beaucoup, merci. Et ça me rappelle un beau souvenir, ça fait plus de 15 ans. J'étais venue avec les catéchumènes de la paroisse du Havre voir dans ta communauté comment on louait Dieu dans une synagogue, et les enfants avaient été particulièrement bien accueillis. Et donc c'est une longue histoire en fait, que nous tissons des liens qui restent très longtemps, et on n'oublie jamais un geste d'accueil. Merci. Nous allons commencer ce temps de culte avec le premier répond que vous avez dans les psautiers français. Au tout début, vous avez toute la liturgie et les réponses de ce culte. Et c'est le chœur de l'oratoire ce matin qui est avec nous, avec Sarah Kim à l'orgue et pour diriger le chœur, Alexandre Korovitch. Merci beaucoup d'être là. Nous nous levons. Le Seigneur. Chant pour ceux qui montent à Jérusalem de David. Oui, il est bon, il est agréable pour des frères d'être ensemble. C'est comme le parfum de l'huile précieuse versée sur la tête du grand prêtre Aaron. Elle descend sur sa barbe, puis jusqu'au col de son vêtement. C'est comme la rosée qui descend du mont Hermon sur les montagnes de Sion. Car c'est là, à Sion, que le Seigneur donne sa bénédiction, la vie pour toujours. Chantons notre louange avec le psaume 92, les strophes 1, 2, 3 et 4, parce que dans ce psaume, il y a bien 4 strophes. Dans le deuxième, vous verrez, je me suis trompée, il n'y a que 3 strophes. Voilà, je le dis déjà tout de suite pour ne pas oublier. Voilà, donc les 4 strophes du psaume 92, « Oh, que ces choses belles !» Merci au cœur pour cet entrain, peut-être un peu trop. Non, je voudrais juste pouvoir chanter toutes les paroles. Voilà, juste ça. Voilà. Merci beaucoup pour votre dynamisme. Je vous invite à écouter la volonté du Seigneur. Ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez, est-il écrit dans le prophète Amos. Que cette parole nous accompagne et nous encourage à sans cesse chercher l'Éternel dans nos vies. Je vous invite à vous asseoir. Méditons avec Søren Kierkegaard. Dans son journal, il écrit « Père aux cieux, comme un père envoie son enfant dans le monde, ainsi tu as mis l'homme sur la terre. Il est séparé de toi comme par un monde. » Il ne le voit pas de ses yeux, il n'entend pas la voix de ses oreilles terrestres. Le voilà ici-bas et la route est devant lui, si longue à l'heure inerte du découragement qui ne veut pas attendre, si malaisé à l'instant pénible de l'impatience qui lui refuse tout répit. Donne alors à l'enfant du courage dans ce vaste monde, du courage quand tant de fausses routes semblent s'offrir à lui et que la bonne est si difficile à connaître. Du courage quand l'angoisse et le chagrin semblent trouver des alliés dans la fureur perverse des éléments, dans l'horreur des événements, dans la misère déprimante des hommes. Donne-lui alors du courage pour se souvenir et croire que de même qu'un père envoie son enfant dans le monde, tu as mis de même l'homme sur la terre. Dieu de miséricorde, comme de l'enfant prodigue en trouvant le chemin du retour, a trouvé tout changé jusqu'à l'esprit de son frère, mais non son père, dont l'amour l'accueillit à sa rentrée par un festin, dont le cœur paternel lui rendit à lui l'enfant perdu, l'assurance aisée du convive. Quand de même un homme retourne à toi, donne-lui alors de l'assurance sur le chemin de la conversion, qu'il ait au moins le front de se croire attendu du miséricordieux qui s'inquiète et craint sa perdition. Amen. Mais levez-vous, chers frères et sœurs, pour que nous puissions ensemble recevoir la grâce renouvelée sans cesse sur nous. L'Éternel Dieu vit en nous, que son esprit nous anime. Sa force transforme notre faiblesse. Sa miséricorde nous relève de notre misère. Sa vérité confond nos mensonges. Sa liberté ouvre nos différentes prisons. C'est pourquoi le dernier mot à notre sujet ne sera pas le nôtre, mais le sien, celui de son pardon et de son amour. Il nous redit ce matin, « Va, ma grâce te suffit ». Confessons ensemble notre foi. Notre paix ne réside pas dans la certitude de nos formulations, mais dans l'émerveillement devant ce qui nous arrive et nous est donné. Notre destinée ne réside pas dans l'indifférence et l'avidité, mais dans la vigilance et la solidarité à l'égard de tout ce qui vit. L'accomplissement de notre existence ne vient pas de ce que nous sommes et de ce que nous possédons, mais de ce qui dépasse infiniment nos capacités de compréhension. Conduits par ces convictions, nous croyons en l'Esprit de Dieu. Il surmonte ce qui divise les gens. Il les attire vers ce qui est saint et bon, pour qu'ils louent et servent en chantant et en faisant silence, en priant et en agissant. Nous croyons en Jésus, un homme empli de l'Esprit qui est le visage de Dieu, qui nous regarde et nous remue. Il a aimé les êtres humains et il a été crucifié, mais il vit au-delà de sa propre mort et de notre mort. Il est, pour nous, un exemple béni de sagesse et de courage. Il rapproche de nous l'amour éternel de Dieu. Nous croyons en Dieu l'Éternel. Il est amour insondable, le fondement de notre existence. Il nous montre le chemin de la liberté, de la justice et nous appelle à un avenir de paix. Bien que faibles et vulnérables, nous nous croyons appelés solidairement avec le Christ et avec tous ceux qui croient à former une Église qui soit signe d'espérance. Car nous croyons dans l'avenir de Dieu et du monde. La patience divine nous offre du temps pour vivre, pour mourir et pour ressusciter dans le royaume qui est et qui vient. Dieu y sera pour l'éternité tout en tous. À Dieu soit la louange et l'honneur dans le temps et l'éternité. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité.
Alors Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, « Sois fort et vaillant. » Car c'est toi qui entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a promis à leurs ancêtres. Je vais dire les versets en hébreu, je sais que c'est de l'hébreu pour beaucoup d'entre vous, mais comme ça vous entendrez au moins la musique. Vaïkra Moshe, le Yeshua, Vaïomer, Elav, le Enekol, Israël, Chazak, ve'ematz. Chazak, ve'ematz, sois fort et vaillant. Tel est le souhait prononcé par Moïse lorsqu'il transmet sa mission à son successeur. Chizku ve'imtzu, dit l'Éternel au peuple d'Israël, un verset auparavant, soyez forts et courageux. Et ainsi l'impératif s'est transmis de génération en génération jusqu'à la Théba, l'estrade de la synagogue, qui je dois dire n'est pas aussi élevée que celle-ci, chaque fois que quelqu'un est appelé à la Torah, pendant l'office du Shabbat, matin, lisant les bénédictions avant et après la lecture, appelé à la Torah pour revivre à nouveau la révélation du Mont Sinaï. En descendant du Mont Sinaï et de l'estrade, on s'entend dire ces mots étranges de félicitations, Chazak ve'ematz, Chizki ve'imtzi au féminin, soyez forts et courageux. Au lieu de reconnaître un événement passé, et s'en féliciter, c'est un peu comme si tout était encore à venir, puisque nous sommes les garants de la transmission du texte, un peu comme si l'on nous disait « la vie est tissée d'épreuves, il faut s'armer de courage, une fois redescendu du mont Sinaï, de l'exaltation, de la révélation, le courage est de mise lorsque l'on est dans la vallée, à l'épreuve du quotidien, du banal et des chemins battus. » De la nécessité d'être vaillant, brave et courageux face aux vicissitudes de la vie, l'écho s'en retrouve à l'infini dans la bouche des poètes comme Rudyard Kipling qui s'adresse à son fils. Si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties sans un geste et sans un soupir, etc. Tu seras un homme, mon fils. Courage, ténacité, dignité sont ces mots qui sont répétés comme des clés de réussite face à l'adversité. Et lorsque les larmes coulent de nos yeux et déversent leurs vagues qui déferlent d'un cœur trop plein, on s'en excuse. Honteux d'avoir laissé paraître quelque chose de l'intime, un défaut de faiblesse qui mettrait notre cœur à nu. L'être de raison, apprend-on, doit savoir contrôler ses émotions ou les dissimuler. Il ne doit pas se laisser aller car la raison permet l'analyse, la compréhension et la maîtrise du moment. Être fort est par conséquent synonyme d'une forme d'indifférence à ce qui nous entoure. La capacité à ne pas réagir sur le moment, à rester impassible, voire insensible, rester de marbre est souvent considéré comme une force qui ignore les murmures du cœur. Il sait se contenir, dit-on. Ne pleure pas, entend-on des parents dire à leurs enfants qui expriment trop bruyamment leurs émotions. Quel est le véritable héros, disent les Pirkei Avot, le traité des principes, écrit dans les premiers siècles de notre ère, Ezehu Gibor, Akovesh et Yitzro, celui qui maîtrise ou qui domine ses passions. Montrer sa vulnérabilité est en effet considéré comme une faiblesse, une preuve de fragilité. Et être fragile est considéré comme un défaut, être fort, une source d'admiration. Mais est-ce véritablement le modèle que nous dessinent nos traditions ? Devons-nous être des super-héros invincibles ? Et les héros bibliques dont nous devons nous inspirer le sont-ils ? Sont-ils toujours forts et vaillants ? Devons-nous nous montrer impitoyables et insensibles dans nos relations avec les autres ? Quant au tout autre, à Dieu, se place-t-il au-dessus, par-delà, en deçà de toute émotion ? Un midrash, texte rabbinique qui commente la Genèse, peut nous apporter des éclaircissements dans cette quête. Il nous explique que la vision de la perfection n'est pas la même chez Dieu et chez l'être humain, en citant un verset du prophète Isaïe, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos chemins ne sont pas mes chemins. » Un être humain, poursuit le texte, s'il a un vase, qu'il est entier, il en est heureux. Du jour où il se brise, il n'en veut plus. Mais le saint, béni soit-il, n'est pas ainsi. S'il voit quelqu'un de hautain, il n'en veut pas. S'il est brisé, il dit « Il est à moi, car l'Éternel est proche des cœurs brisés », dit le psaume 34. « Karov Adonai le mishber élève ». Dans ce magnifique midrash, on nous dit que le saint, béni soit-il, aime les cœurs brisés. Non pas que la brisure éveille la pitié divine ou une supériorité mal placée, mais parce que la brisure et la fragilité sont le propre de l'humanité. L'être humain se berce d'illusions quant à un idéal de perfection qui ne comporterait aucune faille. Or, toute création passe nécessairement par une brisure. Le blé éclot de son enveloppe. La fleur sort de son bourgeon, le papillon de sa chrysalide, l'être humain de l'utérus. Il n'est pas de création sans séparation et sans brisure, sans déchirement. Et qui dit brisure, dit fragilité. On raconte que Michel-Ange, ayant sculpté Moïse, le trouvait si parfait et vivant qu'il se mit à lui parler. Mais comme la sculpture restait de marbre et ne répondait pas à l'artiste, ce dernier se fâcha et laissa tomber son marteau sur le genou de Moïse en l'entaillant. L'entaille y resta gravée comme la marque de la faille que contient toute création humaine, mais divine aussi. Car le texte de la Genèse nous explique que Dieu s'est arrêté de créer le sixième jour pour laisser la place à l'être humain de parfaire sa création, la sotte en hébreu pour faire. L'œuvre divine n'est donc pas complète ni parfaite dans le sens où nous l'entendons habituellement, qui ne nécessite aucun changement. Elle reste inachevée. Et si Dieu peut limiter sa toute-puissance, alors certainement, c'est un modèle d'inspiration pour nous qui sommes créés, Betselem Elohim, à l'image de Dieu. La capacité de lâcher prise, de ne pas contrôler la réalité qui nous entoure, de ne pas prévoir l'avenir, le retrait divin est une preuve de force et de fragilité en même temps. Être perfectible est préférable à être parfait, car la perfection signifierait l'immobilité et la mort. L'utopie de la perfection peut s'exprimer sous une forme d'excès et de totalitarisme, car tout perfectionniste a son idée subjective de la perfection qu'il souhaite imposer à lui-même et aux autres. Ainsi, on nous dépeint un Dieu qui laisse la place, qui ne finit pas son œuvre pour permettre à ses créatures de la parfaire. Dieu aime se laisser surprendre, car dans le cas contraire, Dieu n'aurait pas donné à l'être humain la capacité d'être libre et responsable. L'être divin ne contrôle pas tout, sinon il n'aurait laissé aucune place à l'être humain, qui n'aurait été qu'une marionnette prise entre ses fils. Ainsi, lorsqu'Adam et Ève consomment du fruit de la connaissance du bien et du mal, le fruit de l'arbre de la vie et de la mort, cédant à leurs désirs, désobéissant à Dieu, ils goûtent par la même occasion au fruit de la vulnérabilité. Ils savent désormais qu'ils sont fragiles et cette fragilité les humanise. S'ils se cachent au regard divin dans le jardin d'Éden, c'est qu'ils ont conscience d'eux-mêmes, de leurs imperfections, qu'ils reconnaissent leur part d'ombre et de lumière, l'ombre étant nécessaire à la lumière, et le bien peut naître de l'ombre comme de la lumière. Le Midrash, texte rabbinique, fait couler des larmes sur leurs joues. Précieux cadeau divin que ces perles fragiles pour soulager leur peine. La marque humide de leur finitude, la récompense du lien entre l'intime et l'infini. Ne pleure-t-on pas de joie ou de tristesse lorsque notre cœur et notre âme rencontrent l'infini, lorsque nous sommes surpris ou tristes devant une réalité qui confronte nos rêves, les limites ou les déploie. Mais si nous cessons de rêver, de peur de ne pouvoir retenir nos larmes, nous nous dépouillons en même temps de notre peu, de notre peau d'humanité. La peau de chagrin ne doit pas se rétrécir. Cette peau si fine, qui est à la fois frontière et laissez-passer, elle aussi, fragilité et force. Et le poète Yehuda Amichai l'a décrit ainsi. Multiplie les vagues, multiplie les yeux, multiplie les épreuves, multiplie le sel, multiplie la tristesse, chante les nuits, multiplie les coquillages, le sable, tout. Pour dire, continue à vivre, qu'est notre vie? Quelques centimètres de folie et de chair tendre entre le squelette dur de l'intérieur et l'air dur dehors. La chair n'est jamais dure. Et même si nous arborons des masques de dureté, ils finissent par tomber ou dégouliner de larmes qui, au lieu de déborder, creusent leur sillon dans nos cœurs à l'intérieur. Nos héros bibliques ont ainsi tous leurs défauts. Que penser de la folie d'Abraham ou de ses mensonges, de la jalousie de Sarah, de la cécité d'Isaac et du fait qu'il se laisse tromper, de Rebecca et de Jacob qui manipulent Ésaü, du roi David qui envoie son général d'armée à la guerre pour prendre sa femme Bethsabée, dont il est tombé follement amoureux, de Salomon qui multiplie les femmes et les chevaux, de Moïse qui ne sait pas parler et se met en colère. Mais ce sont nos héros, parce qu'Abraham ment pour ne pas blesser, parce qu'il se rend compte de ses excès, parce que Isaac ressent ce qu'il ne voit pas, parce que Rebecca agit pour l'avenir, parce que David écoutera les remontrances du prophète Nathan, parce que Salomon construira le temple, parce que Moïse est humain et aime son peuple. Grâce à ses failles, en tenant compte, en les acceptant, ils se redressent et ils avancent. Ils sont encore plus grands dans leur humanité, dans leur faiblesse. Et dans la tradition juive, nous invoquons sans cesse ce Zechut Avot, le mérite de nos ancêtres, sur lequel nous nous appuyons et que nous prenons en exemple. Et pourtant, ce sont des êtres comme nous, burinés d'ombre et de lumière. Là où tu trouves l'humilité, tu trouveras la grandeur, résume ainsi Rabbi Yochanan, maître du IIIe siècle dans le Talmud. Et Rav Shlomo de Karline de commenter, la plus grande source d'erreur est d'oublier que nous sommes des princes. Nous disons « Avinu Malkenu », notre père, notre roi. Cela signifie que nous sommes tous membres d'une famille royale et que nous devons agir comme si nous l'étions. Et la marque de la royauté est l'humilité. L'honneur n'est pas celui que nous recevons, mais celui que nous donnons. L'humilité n'est pas une façade, un faux semblant. Elle est la capacité de reconnaître que nous tâtonnons sans cesse et que parfois, mais seulement parfois, nous réussissons à trouver le bon chemin. Lorsque les rabbins discutent du nombre de mitzvot, de commandements que nous devons suivre dans le traité Megillah du Talmud, ils partent de 613, mais ils finissent par arriver à une seule, un seul commandement, celui exprimé par le prophète Michée, ce que l'Éternel demande de toi, rien que de pratiquer la justice, à sot mishpat, d'aimer la bonté, à avat chesed, et de marcher humblement devant ton Dieu, vatsnea lechet imelohecha. C'est cette reconnaissance de notre fragilité qui nous permet aussi d'aimer. Ve'ahavta, tu aimeras, nous dit la Torah, l'Éternel ton Dieu, l'étranger qui séjourne dans tes portes et ton prochain comme toi-même. Comment aimer sans s'ouvrir à la possibilité d'être blessé? Comment aimer sans être vulnérable? L'amour aussi, dans notre relation à l'autre, nous rend pleinement humains. Celle qui, selon le philosophe Martin Buber ou Emmanuel Lévinas, nous fait rencontrer Dieu. Aucune carapace, aussi étanche soit-elle, ne pourra nous protéger de la violence d'une relation à l'autre faite d'appropriation plutôt que de respiration. Marcel Proust le décrit si bien dans La recherche du temps perdu. Il est curieux qu'un premier amour, si, par la fragilité qu'il laisse à notre cœur, il fraye la voie aux amours suivantes, ne nous donne pas, du moins par l'identité même des symptômes et des souffrances, le moyen de les guérir. Comme si les épreuves dans les relations étaient autant d'étapes pour nous persuader de notre constante fragilité. En matière humaine, l'immunité n'existe pas. S'ouvrir au visage de l'autre consiste à s'exposer. On ne peut amorcer un dialogue avec un visage fermé. Entrer en relation, c'est exposer son visage, sa vulnérabilité, sa fragilité. Au plus intime des sentiments, dans un cœur à corps loin des phares, s'échangent des mots d'amour et de poésie. Et lorsque l'un détourne son visage de l'autre, alors qu'il a connu la plus grande extase, la joie laisse place à la souffrance. Mais là aussi se trouve notre plus belle humanité. Comment y faire face? Comment construire? C'est la leçon de Rabbi Akiva qui se promène dans les ruines du temple détruit par les Romains en 70. Tandis que ses étudiants se lamentent, lui chantent la reconstruction de Jérusalem. À travers les débris, il entrevoit la lumière de l'espoir. Il sait que les pierres qui jonchent le sol sortiront, de ces pierres sortiront un nouveau temple. Il ne s'agit pas de nier la présence des ruines. La beauté des ruines nous attire, les vestiges du passé, témoins de vie qui se sont déroulés, d'amour qui se sont déclarés, de soupirs échangés, de projets élaborés. Tout cela se lit dans les pierres, mais entre les pierres brisées, dans ces espaces de faille ou de paille pour les métaux, dans les vallées des larmes, le soleil brille d'un avenir en promesse. Comme la terre doit être retournée pour pouvoir planter encore, nous sommes Adam, être humain, pris de Adama, de la terre, et ce n'est que la terre labourée qui germe à nouveau, que les cœurs mouillés de larmes qui sont capables de percevoir des arcs-en-ciel prometteurs. Ceux qui ont semé dans les larmes récolteront dans la joie, dit le psaume 126. Il est un temps pour tout, un temps pour détruire et un temps pour rebâtir, dit l'Ecclésiaste. Une fois que nous avons accepté notre propre fragilité, nous pouvons mieux envisager celle de l'autre. La fragilité est un point de départ, aussi de la nécessité de s'entraider. La Torah nous enjoint d'aimer l'étranger, la veuve et l'orphelin. Et les enfants nous appellent à cet au-delà de soi. Quoi de plus vulnérable que le nouveau-né, écrit Hans Jonas, dont la simple respiration adresse un « on doit » irréfutable à l'entourage, à savoir qu'on s'occupe de lui. La fragilité de l'autre, le prochain qui peut être plus fragile, là où je suis plus fort, ou l'inverse, induit le devoir de s'occuper d'autrui, le souci de l'autre. Elle intime la solidarité. C'est parce que nous ne sommes pas tout-puissants que nous avons besoin les uns des autres. Nos forces et nos faiblesses ne sont pas toutes les mêmes. Nous réagissons différemment aux événements que nous vivons. Projeter son propre modèle sur les autres est aussi une forme de violence. Si l'autre est autre, il ne réagit pas comme moi. Si je ne suis pas capable de l'imaginer, je ne fais que m'aimer moi-même en l'autre. L'autre devient alors une image caricaturée, un miroir dans lequel narcissique je m'admire, plutôt qu'une perspective qui me remet en question. Le modèle de la fragilité est souvent celui de l'enfant ou du nourrisson. Il n'est pas étonnant alors que Dieu prenne sa force chez les nourrissons, comme le dit le psaume 8, par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as ta force. quelle manière merveilleuse de nous dire que dans le balbutiement, le babillage, l'apprentissage de la vie, dans ce qui vient de naître et de venir au monde, dans les cris de joie et les larmes, on trouve la force du divin, du dépassement, du merveilleux, dans sa vulnérabilité aussi. L'extraordinaire éducateur, pédagogue Janusz Korczak nous dit de saluer l'émotion de l'enfant. Ne jamais se moquer, ne jamais profiter de nos centimètres supplémentaires ou de notre suffisance pour surplomber ces petits êtres. Je le cite, « L'enfant mérite que l'on respecte ses peines, même si leur cause n'est que la perte d'un caillou. » Le caillou doit être essentiel à nos yeux aussi. Sa peine est grande et mérite notre compassion entière. La représentation de Dieu, s'il en est, n'échappe pas non plus à cette fragilité. D'abord dans les regrets exprimés lors de la création du monde, lorsque l'être humain se comporte mal. Et même dans le fait que Dieu crée l'être humain parce que Dieu se sent seul. De la solitude de Dieu que l'être humain vient combler. Comment comprendre que Dieu ne se suffise pas à lui-même? Parce que Dieu est en quête de l'être humain, comme nous le dit si bien le philosophe et rabbin Abraham Heschel, qui marchait avec Martin Luther King. Les deux partenaires improbables, insensés et dépendants l'un de l'autre, peuvent ainsi commencer une conversation retranscrite en partie dans la Torah, mais aussi dans nos livres de prière et plus encore dans nos cœurs. Ils peuvent commencer des fragments de dialogue amoureux. La fragilité n'est-elle pas aussi le point de départ nécessaire à la remise en question? Même Dieu se remet en question, et c'est certain, l'être humain n'a cessé de remettre Dieu en question. Mais nous-mêmes, si nous ne sommes pas prêts à reconnaître nos failles, notre fragilité, que faisons-nous? Loin de toute idée de performance, d'efficacité et de productivité, nous nous tenons debout en caressant tous les possibles. Les brisures, loin d'être des condamnations, sont des lignes d'écriture que nous pouvons lire et relire pour mieux s'appuyer sur elles et en faire des lignes de force. Les montagnes sont des accidents qui nous éveillent à la beauté, à l'émerveillement. Nos rides racontent des histoires de nos âmes froissées, peuvent sortir des oiseaux qui renaissent comme des bourgeons du printemps après un rude hiver. Nous pouvons être fiers de nos blessures si nous les lisons plutôt que de les couvrir. Elles sont autant d'apprentissages, comme les perles qui se forment à partir d'impuretés. Sans se complaire dans un enfermement de tristesse, sans s'y abîmer, sans pleurer sur notre sort, mais en laissant les larmes couler pour qu'elles se transforment en joie. La Shrina, la présence divine, pleure aussi quand elle voit que ses créatures s'abîment et s'entretuent, laissant cours à la violence et à la destruction. Les larmes divines rencontrent les larmes humaines et ensemble les flots s'unissent et se mêlent pour constituer la rosée nécessaire à la vie. Car notre idéal, l'image de Dieu en nous, n'est pas celle de l'indifférence ni de la toute-puissance. Être fort, ce n'est pas retenir nos larmes, c'est assumer notre vulnérabilité, notre capacité de créer, d'aller vers l'autre et d'aimer. Et ainsi, tout en goûtant ces perles de rosée qui nous soulagent, nous pouvons dire « Chizkuv imtsu », non pas « soyons forts et courageux », mais plutôt que la faiblesse et la vulnérabilité constituent notre humanité. Amen.
je vous invite à prendre le cantique, enfin le psaume 23, les strophes 1, 2 et 3, dans les psautiers français. Voilà, merci beaucoup. Et donc, la quatrième strophe, vous l'inventerez. Voilà, je vous invite à vous asseoir. Merci beaucoup, Apolline. Et je passe la parole à Aurore, notre présidente du Conseil presbytéral, pour les annonces.
Merci à toi, Béatrice. Merci, Rabbi Pauline. Nous avons pleuré. J'ai confirmé quand Pauline est revenue. Je dis, ben, nous étions plusieurs conseillers à pleurer. Merci beaucoup. Vous avez quelques annonces. Vous avez fait référence à la commémoration que nous avions faite au mois de février sur les 80 ans du sauvetage de 43 enfants juifs. 63, pardon. En fait, il y en a même eu beaucoup plus. Mais bon, sur une journée, il y en a eu 63, enfin sur 3 jours. La plaque commémorative est là, mais il y a une autre plaque qui est rue de l'Oratoire, qui avait été donnée il y a une dizaine d'années par la Fondation Wallenberg, et qui nous a décerné à la communauté de l'Oratoire le titre de maison de vie. Donc il n'y a pas que cette plaque, il y a aussi celle sur la rue. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on en a parlé, mais également parce que le mur de la rue de l'Oratoire est noir de crasse. Absolument noir de crasse. Et mon prédécesseur me disait que le pasteur Marc Pernaud, qui avait décidé de cet emplacement, espérait indirectement que la ville de Paris réagisse en nettoyant le mur pour mettre en valeur la plaque. La ville de Paris n'a toujours pas nettoyé le mur. Ça fait plus de 10 ans que nous leur demandons un devis et nous venons de recevoir ce devis. C'est tout à fait atteignable. Et si nous ne nous mobilisons pas pour le financer, on peut encore attendre 10 ans. Alors, vous avez vu qu'on n'a pas allumé la lumière aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ont suivi, c'est parce que c'est grâce à une restauration de nos vitraux que nous avons menée dans les 6 derniers mois. Il reste un vitrail qui est encore sous les filets. J'avais expliqué ici même que les normes nacelles allaient essayer d'enlever le filet et les restaurateurs pour la réparer. Ils ont immédiatement remis le filet parce que les ferronneries tombent. Donc un serrurier va intervenir, on va avoir un échafaudage. Pour le coup financé par la ville de Paris, et nous avons déjà levé les fonds pour le reste de cette restauration qui inclut aussi les vitraux de la grande sacristie dans laquelle tout à l'heure, j'espère que vous me suivez, nous avons un verre de l'amitié. Donc à la sortie de ce culte, Rabbi Pauline et pasteur Béatrice vont se mettre de ce côté-là pour vous accueillir et prendre un verre de l'amitié. Je reviens quand même à mon histoire de financement. C'est la période des déclarations d'impôts, et notamment un impôt qui s'appelle l'impôt sur la fortune immobilière. On se dit que c'est des gens très très riches. Très sincèrement, c'est quelqu'un qui a plus de, d'un appartement de plus de 100 mètres carrés à Paris. Donc, si vous avez autour de vous des gens qui ont un appartement de plus de 100 mètres carrés à Paris, il y a de fortes chances qu'ils payent l'impôt sur la fortune immobilière. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la fondation de l'oratoire est là pour alléger son impôt de 75% jusqu'à 50 000 euros. Donc, je vous en prie, prévenez tous vos amis, c'est vraiment dans les 10 jours qui viennent, pour vraiment alléger leur facture d'impôt sur la fortune immobilière, de venir donner à la fondation de l'oratoire. Ça permettra de nettoyer la rue de l'oratoire, d'avoir une plaque maison de vie propre, ça permettra de refaire les sols, ça permettra d'écouter mieux l'orgue, et je parle à la caméra, parce que nous avons comme projet de mettre une captation, notamment pour les vidéos, pour la musique. Voilà, donc il y a plein de raisons, s'il vous plaît, de financer l'Oratoire du Louvre à travers sa fondation de l'Oratoire. Également, une autre annonce, la pasteur Agnès Adeline Schaeffer est aujourd'hui au temple des Batignolles en train de prêcher. Donc elle est désolée, elle ne peut pas être là pour vous accueillir, mais c'est important aussi pour nous d'être solidaires avec les autres temples, et notamment les temples libéraux de Paris. Donc Agnès Adeline Schaeffer est aujourd'hui au temple des Batignolles. Elle sera là jeudi pour une pause spirituelle à l'heure du déjeuner, comme il se doit, et également dimanche prochain, dimanche de Pentecôte, partage de la Seine. Nous accueillerons aussi nos catéchumènes pour leur confirmation et leur baptême. Donc soyez nombreux aussi dimanche prochain à la Pentecôte. Et dernière petite annonce, nous avons un professeur d'hébreu à l'Oratoire du Louvre, qui est le pasteur Gilles Castelnau. Ses deux derniers cours de l'année sont les 4 et 10 juin, le samedi matin, donc le 4 juin et le 10 juin. Il est toujours temps, c'est pour tout le monde, et ça permettra de profiter encore mieux la prochaine fois de la prédication d'un prochain rabbin que nous aurons en chair. Merci à tous et bon dimanche.
Merci. Je vous invite à participer à cette offrande pour que nous puissions continuer à avoir ces moments si essentiels à nos vies, le dimanche matin, mais aussi dans toutes les activités que propose l'oratoire. Donnez le cœur joyeux pour que la parole puisse être partagée. Merci. vous invite à la prière. Éternel, dans toutes nos relations, apprends-nous à rester avec cette humilité que tu nous apprends. Aide-nous à vivre dans le dialogue constant avec ce qui n'est pas semblable. Apprends-nous à écouter même pendant que nous parlons. Que notre parole soit écoute de l'autre. Aide-nous à combattre la violence que nous avons en nous quand nous souhaitons l'emporter sur l'autre. En cette période où nous nous souvenons d'événements qui montrent la faiblesse et la vulnérabilité des êtres humains, nous te demandons de le vivre au quotidien, de vivre de cette mémoire pour ne jamais nous croire plus forts et ne jamais vouloir vivre à ta place, Éternel. Car c'est toi seul qui as cette puissance qui irrigue le monde. C'est toi seul qui es source de vie. Nous avons fêté les 10 ans du mariage des couples de même genre cette semaine. Éternel, nous voulons prier pour que l'acceptation continue de cette différence qui, au bout du compte, est bien secondaire par rapport à l'amour qui unit les uns et les autres. Aide-nous à ne pas nous enfermer dans nos certitudes, à ne pas annoncer comment l'autre doit vivre alors que nous avons tant de peine à savoir comment nous allons mener notre vie. Aide-nous à être des cœurs ouverts à la réalité affective d'autres pour que nous puissions nous aussi admettre notre propre affectivité. Éternel, dans un monde où la peur dirige les cœurs trop souvent, permet que nous soyons des êtres de confiance qui avançons en toute lumière sous ton regard, assurés que tu nous accompagnes. Que nos réactions ne soient jamais celles de la peur, pour que nous ne soyons jamais dans cette violence de la défense. Éternel, nous te remettons notre monde déchiré par cette peur de l'autre, cette peur de soi-même, cette peur de notre faiblesse. Tous les régimes autoritaires qui veulent affirmer leur force à tout prix, tant ils ont peur de disparaître, tant ils ont peur de ne pas exister, de ne pas être les premiers et d'être contestés. Aide-nous à ne pas être de cela et permets que nous soyons sans cesse acteurs de liberté pour que nous puissions découvrir la richesse infinie de la différence en l'autre. Éternel, nous te remettons nos communautés, toutes les communautés, celles qui cherchent à libérer la parole, à permettre que tous soient accueillis de la même façon, avec le même amour que tu nous demandes d'avoir vis-à-vis de notre prochain, mais aussi les communautés où la fermeture règne. Permet que nous puissions être de ceux qui font changer ce paysage religieux qui fait tellement peur à tellement de gens sur la terre. Apprends-nous à être serviteurs de cet amour que tu voudrais pour notre monde. Apprends-nous à croire sans cesse que c'est possible et que rien ne peut nous empêcher de travailler à cet amour si tu es avec nous. Nous te remettons, Éternel, toutes celles et ceux qui combattent là où ils sont, pour que leur voix soit entendue, sans qu'on cherche à les transformer, à les changer, à faire en sorte qu'ils ne soient pas ce qu'ils sont. Demandons, Éternel, cette empathie, cette compassion, cette écoute. Apprends-nous à être tes enfants, sans avoir peur de ce que nous sommes. Nous te remettons, Éternel, tous ceux qui sont en guerre aujourd'hui, dans des pays où l'on se bat et où l'on meurt, sans parfois savoir pour quelle cause on a combattu. Nous te remettons, Éternel, tous ceux qui travaillent à la paix, là où ils sont. Aide-les et aide-nous à les aider. Ensemble, nous te disons, comme des enfants qui n'ont pas peur d'avoir tout à apprendre de toi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, ce temps était un temps d'accueil, un temps de partage. Et nous allons pouvoir continuer ce temps dans la grande sacristie avec le pot qui a été préparé pour vous, pour que nous puissions nous rencontrer, que vous puissiez parler avec Pauline, que vous puissiez rencontrer notre invité aujourd'hui. Nous sommes un lieu de vie, un lieu de rencontre, et nous devons toujours être dignes de cette mission particulière qui nous est confiée dans le monde, d'annoncer l'amour de Dieu par notre présence et notre façon d'ouvrir nos portes. Que notre parole soit toujours ouverte pour qu'elle devienne un lieu véritablement de vie. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur, de toute grâce, vous bénit et vous garde. Amen.